Donc Matthieu 6, du verset 1 au verset 18. Et avant ça, je vais prier. Seigneur, je te remets ces moments, que Seigneur, ils soient sous ta gouverne, sous ta paix, sous ton regard. Merci de parler à chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on soit pleinement disposé à recevoir ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Une prière donc qui est très connue, le Notre Père, et que nous allons voir. De quoi est-il question ici? Eh bien, Jésus condamne ce qu'on appelle aujourd'hui la religiosité. La religiosité, c'est-à-dire une certaine forme, un certain formalisme religieux, une religiosité, une religion apparente. De pratiquer une religion pour être vu des hommes, par tradition. Et Jésus, dans son passage, condamne très clairement ce qu'il nomme et ce qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie qu'on trouve dans l'aumône, dans la prière et dans le jeûne. Alors le mot hypocrite, c'est quoi hypocrite? Le mot hypocrite, il est répété trois fois, au verset 2, verset 5 et verset 16. Ça peut se traduire par acteur, joueur de théâtre, celui qui dissimule ce qu'il est vraiment. L'aumône, la prière et le jeûne. L'aumône, donc la première de ces pratiques, laisse à penser à première lecture, eh bien on peut parler de mendiants. Et il y a d'un côté les mendiants, ceux qui mendient, et de l'autre ceux qui donnent. Mais en lisant la suite du texte, eh bien on se rend compte que, et c'est ma vérité centrale que j'ai ressortie de ce texte, on se rend compte que nous sommes tous des mendiants. Nous sommes tous des mendiants. J'ai intitulé mon message « Tous mendiants », d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez peut-être me dire « Mais moi, j'ai jamais demandé d'argent ». D'accord, mais il existe différentes façons de mendier. En quoi sommes-nous tous des mendiants? Eh bien, il y a deux catégories de mendiants, d'après ce texte. Ça sera mes deux points de mon message. La première, eh bien, nous verrons qui sont les mendiants devant les hommes qui sont incapables de donner. Et deuxièmement, nous verrons les mendiants devant Dieu cette fois, Dieu qui nous rend capables de donner. Donc premièrement, voyons les mendiants devant les hommes qui sont incapables de donner. Avec donc la première pratique dont parle Jésus qui est l'aumône. L'aumône donc. Si vous vous promenez dans Figeac, il y a beaucoup, on croise parfois des personnes qui font l'aumône, aussi bien jeunes qu'âgés. L'aumône, la mendicité a toujours existé, de tout temps. Qu'est-ce que c'est un mendiant? un mendiant, on appelle par mendiant quelqu'un de très pauvre, qui demande l'aumône aux passants, la charité s'il vous plaît, pour avoir de quoi manger, sans pouvoir leur rendre en retour, à cause de leur pauvreté. Mais il y a ceux qui sont vraiment dans le besoin, oui, et il y a aussi ceux qui mendient parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, et il y en a aussi, qui sont dans la force de l'âge, et même s'ils traversent une période très, très difficile dans leur vie, il y en a qui en ont fait un mode de vie. Alors on ne le distingue pas forcément à première vue. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas leur cœur. On ne voit pas la motivation qu'il y a derrière leur cœur. Par contre, quand nous nous donnons, on peut voir notre propre cœur. Quelle est ma motivation quand je donne ? On peut donner pour un mauvais motif. Le motif de se glorifier soi-même. Pour sa propre gloire. Attitude que Jésus condamne très clairement. Il utilise l'illustration de la trompette. Verset 2. Imaginez quelqu'un qui sonne de la trompette dans la rue ou dans le temple pour se faire remarquer. Regardez ma générosité et combien je donne. Alors qu'en fait, c'est leur propre orgueil qui leur font agir comme ça. Benjamin Franklin, donc c'était un inventeur et un homme politique américain, hein, des preuves. Voilà. Benjamin Franklin, il a dit ceci. Et qui ça vaut le détour, ça vaut la peine de le relever. L'orgueil est un mendiant qui crie aussi haut que le besoin. L'orgueil est un mendiant qui crie aussi haut que le besoin. Alors oui, ces donateurs-là, eh bien, ce sont aussi des mendiants. Qu'est-ce qu'ils mendient ? Eh bien, ils mendient la gloire des hommes. Ils recherchent la gloire des hommes. Ils mendient leur flatterie pour être vus, admirés, reconnus. Ce sont des mendiants. Et Jésus dit qu'ils reçoivent déjà leur récompense. Ils veulent se faire remarquer ? Eh bien, c'est gagné ! Ils ont ce qu'ils veulent, ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, ils obtiennent l'admiration de ceux qui ne font qu'entretenir leur vanité. Mais attention, tous ne sont pas dupes. Et ils peuvent passer aux yeux des autres pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des hypocrites. Voilà leur récompense. Voilà leur récompense. Ils passent aux yeux des autres pour ce qu'ils sont vraiment. Et aux yeux des uns, eh bien, ce qu'ils veulent paraître, une récompense terrestre. La seconde pratique religieuse dont Jésus parle après l'aumône, c'est la prière. C'est là-dessus où je vais m'arrêter plus longuement. Verset 5, donc, la prière. À cette époque, les Juifs priaient à heure fixe. La prière des Juifs se faisait à heure fixe. Alors certains s'arrangeaient pour être dans la rue à ce moment de la prière. Pourquoi ? Pour être vus des hommes encore. Pour que tout le monde puisse les voir et admirer leur religiosité. Ce sont des hommes spirituels. Mais là encore, c'est une autre forme de mendicité. Ces religieux, ils mendient quoi ? Ils mendient l'admiration des hommes, qu'on dise d'eux, regarde comme il est spirituel, comme il est religieux, il ou elle. Mais ici, ce qui est choquant et ce que Jésus condamne très clairement, c'est que la prière qui devrait être avant tout une conversation avec Dieu, eh bien la prière peut être détournée de façon pernicieuse pour devenir une prière faite en réalité aux hommes. Aux hommes. Et quelqu'un a dit ceci, quand on parle à Dieu, on ne doit pas s'adresser aux hommes, sinon la prière ne monte pas plus haut que le plafond. Alors ces hommes reçoivent leur récompense aussi. Leur récompense, eh bien, dans l'estime et l'admiration des hommes qui ont répondu à leur prière hypocrite. Ils ont prié les hommes, en quelque sorte, et ces hommes leur ont répondu. Dieu, lui, ne récompense pas l'hypocrisie, mais il la condamne. Il la condamne très, très clairement dans le Matthieu chapitre 23, les chapitres 13 à 23, il y a ce refrain qui revient très souvent où il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Alors la prière, mercredi nous avons notre réunion de prière ici, on était plus nombreux d'habitude mercredi, et c'était réjouissant. Bien sûr qu'il est bon de pratiquer la prière communautaire dans nos églises. On a besoin de prier ensemble, en plus de notre prière, la prière dans le secret. La prière communautaire, on a besoin de prier ensemble, mais avec une saine motivation, bien sûr. C'est-à-dire à la fois parler à Dieu en premier, et aussi quand je prie, je me rappelle que je ne suis pas tout seul, que les autres frères et sœurs m'entendent, et que ce que je dis peut servir à édifier mon frère, ma sœur. Et je dois y penser. À édifier l'autre. Mais ici, la prière que Jésus préconise, eh bien, c'est la prière que Jésus préconise, c'est celle qui est faite dans le secret de notre chambre. Et il emploie le « tu » au lieu du « vous ». Quand tu pries, verset 6, c'est une exhortation personnelle que Dieu adresse à chacun d'entre nous, celle de lui parler. Prier, c'est rien d'autre que de parler à Dieu, de lui parler. Personne ne nous voit, sauf Dieu. Et là aussi, eh bien, nous devons reconnaître que nous sommes tous des mendiants. Nous sommes tous des mendiants, pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu cette fois. Il ne nous doit rien, nous lui devons tout. Nous n'avons rien à lui apporter, à part ce qu'il nous a déjà donné. À part notre adoration, nos merci. Et à part, bien sûr, nos besoins que nous pouvons lui exprimer. Donc, mon deuxième point. Voyons maintenant les mendiants devant Dieu. Dieu qui nous rend capables de donner. Mendiants devant Dieu qui nous rend capables de donner. Jésus ici nous donne un manuel d'instruction. Vraiment, un manuel d'instruction concernant la prière pour prier de la bonne manière. Les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils avaient besoin d'apprendre, et nous aussi. Prier avec notre cœur, prier notre Père, et prier selon la parole de Dieu. Alors, voyons ce qu'il nous dit. Verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors c'est intéressant, parce que le mot traduit par vaine, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, le mot vaine, ça peut se traduire par multiplier. Jésus, il répète, pour bien mettre l'emphase, il répète le mot multiplier, en priant, ne multipliez pas des paroles multipliées et inutiles. Pour bien nous le faire comprendre deux fois. C'est le même mot, vain et multiplié. Ce sont des prières creuses. Et la tentation, ça serait de faire de la prière un distributeur automatique de bénédictions. Et de croire que la réponse à la prière est fonction du nombre de mots que nous prononçons. Et aussi de la façon dont on les a prononcés. Est-ce que j'ai bien formulé là? Est-ce que Dieu tu m'as bien compris, Seigneur? Mais ça serait du marchandage. Venant d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et puis aussi, si on raisonne comme ça, ça serait décourageant pour les gens qui ne s'expriment pas bien. Et je me rappelle d'une dame dans notre ancienne église, qui était jeune dans la foi, on était dans le même groupe de quartier, qui a longtemps hésité à prier. Parce qu'en entendant, alors on se disait, mais elle prie jamais, pourquoi elle n'est pas à l'aise? Et elle a fini par dire, en entendant d'autres prières, elle a dit, mais jamais je ne prierai comme ça. Alors il a fallu lui expliquer que Dieu préfère écouter les prières sincères de notre cœur plutôt que les prières faites pour impressionner les autres, pour impressionner la galerie, comme on dit, qui sont de vaines redites. Et des prières qui ne lui sont pas adressées, finalement, mais qui sont plutôt adressées aux hommes. En matière de prière, ça ne sert à rien de se comparer, ni d'imiter les hommes. Soyons nous-mêmes avec notre Père. Jésus dit bien, verset 8, « Ne leur ressemblez pas. » Ça ne sert à rien de se comparer. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Comme c'est rassurant et réconfortant, cette parole. Dieu sait ce que je lui demande avant même que je l'ai formulé. Alors la prière, ça ne vise pas à informer Dieu de ce qu'il ne sait pas. Seigneur, tu le sais peut-être pas, mais non. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Il sait tout. Votre Père sait. Pas besoin de lui faire comprendre. Pas besoin de s'inquiéter si on n'a pas utilisé la bonne formule, si on n'a pas trouvé les bons mots parce qu'on s'exprime mal. Dieu connaît d'avance notre prière, avant qu'on l'ait prononcée. Ce qui peut susciter une question. Alors, dans ce cas-là, pourquoi prier? Puisque Dieu sait déjà ce que je vais lui dire. La réponse, elle est au verset suivant, verset 8. Voici donc comment vous devez prier. Un petit mot qui a toute son importance, le mot « donc ». C'est justement parce que Dieu sait d'avance ce que je vais lui dire dans ma prière, qu'il me demande de prier. Dieu sait, mais il me demande de la lui formuler, cette prière. Selon le modèle que lui nous donne. Que lui nous donne, à savoir le Notre Père. La prière du Notre Père qui suit. Jésus veut nous apprendre à prier aux mendiants que nous sommes face à lui. Et remarquez l'impératif. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Alors, autre question qui se pose. Est-ce que ça veut dire que le Notre Père, cette magnifique prière, doit être apprise par cœur et récitée machinalement, comme le font certains? Alors, Jésus vient juste de dire de ne pas répéter de vaines redites. Alors oui, il est bon de la connaître par cœur, cette prière. Il est bon de la connaître par cœur. Et même de la dire chaque jour. Mais l'important, c'est le fond de cette prière. Cette prière, c'est une structure, c'est une armature. À nous d'y mettre l'enrobage. Qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est sa construction, c'est sa structure que Jésus veut nous donner comme modèle pour nous aider à élaborer notre propre prière, selon le modèle qu'il nous a donné. Et selon une persévérance quotidienne. Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme. Il ne nous a pas créé des robots, des automates. Il nous a créé à son image pour avoir une relation de père à enfant avec lui. Il veut que nous le connaissions et aussi que nous nous reconnaissions mendiants face à lui, que nous nous reconnaissions dépendants de lui entièrement. Alors je vous invite à décortiquer cette prière, de faire un focus sur cette prière, de la regarder de plus près. Déjà, si on prend de la hauteur sur cette structure, on se rend compte que cette prière de Notre Père, elle commence et elle finit par quoi? Par viser la gloire de Dieu. C'est pas Dieu, ça commence pas par Dieu, ça commence par Notre Père. Viser la gloire de Dieu, ça doit être notre première motivation quand nous prions. Et au milieu, on trouve quoi? On trouve l'expression de nos besoins vitaux. Besoins vitaux qu'on compte en nombre de trois. Il y a nos besoins physiques, corporels, qui sont importants, comme manger. Puis il y a nos besoins spirituels. Le premier besoin spirituel, notre premier besoin spirituel à tous, ça a été dit, c'est d'être pardonné de nos péchés. Et de pardonner. Et puis, troisième besoin, c'est notre besoin d'être délivré du mal et de la tentation. Donc, on se rapproche, on va plus en détail. Ça, c'est pour prendre de la hauteur sur cette prière. Voyons plus en détail. Cette prière commence par notre verset 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus emploie dix fois le mot « Père » dans les versets 1 à 18. Et c'était révolutionnaire à l'époque que d'oser appeler Dieu « Père » en priant. Et qui d'autre que Jésus pouvait nous apprendre à prier Dieu comme un Père, puisqu'il est son Fils? Il s'agit donc d'avoir une communication intime avec Dieu, le Père parfait. Le Notre Père, vous avez remarqué comment ça commence? C'est pas mon Père, c'est Notre Père. Le Notre Père emploie, cette prière emploie le « nous ». Et me rappelle que mon Dieu est aussi ton Dieu, que mon Père est aussi ton Père si tu as accepté son Fils Jésus. Et qui me rappelle que mes besoins sont aussi tes besoins. Ça nous décentre de nous-mêmes. Si vous priez pour les autres vont prier pour vous. Je le crois. Si vous priez pour les autres prieront pour vous. Même s'ils ne savent pas que vous priez pour eux. Dieu sait déjà nos besoins, il connaît nos besoins. Que nous demande-t-il en premier? Il nous invite d'abord à regarder à lui en tout premier pour nous rappeler quoi, notre Père qui est aux cieux, que lui, il est au ciel et nous sommes sur la terre. Il est au ciel, ça veut dire au-dessus de tout. Donc, pas de raison de s'inquiéter, il contrôle tout. Il contrôle la canicule, il contrôle les guerres, les conflits, il sait d'avance ce qui va advenir à notre pays, la politique. Il sait tout. Il contrôle tout. Il permet, il y a les choses qu'il permet et les choses qu'il veut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette prière ne dit pas Dieu tu es saint, c'est différent, mais demande que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est l'expression de son essence, de sa nature divine, de son être, tel qu'il s'est révélé à nous dans sa parole. Et notre premier désir, d'après cette prière, devrait être que Dieu soit reconnu et adoré pour ce qu'il est, c'est-à-dire trois fois saint. Trois fois saint, 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 saint est le Seigneur. La sainteté de Dieu, c'est le seul attribut de Dieu qui est répété trois fois dans la Bible. En Ésaïe 6, 3 et en Apocalypse 4, verset 8, on trouve « Saint, saint, saint est le Seigneur ». Vous ne trouverez pas des expressions comme « juste, juste, juste est le Seigneur », même si le Seigneur est juste. Vous ne trouverez pas une expression comme « amour, amour, amour est le Seigneur », même si le Seigneur est amour. Mais « saint, saint, saint est le Seigneur ». Saint, ça veut dire que Dieu, il est séparé du mal. Et dans ce sens, il est différent de nous. Verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne, prions pour que le jour où le Seigneur viendra établir son règne que lui seul connaît. Et un bon diagnostic de notre état spirituel, de ma vie avec le Seigneur, c'est est-ce que j'attends après ce jour ? Un bon diagnostic de notre état spirituel, c'est de nous demander si nous désirons ardemment ce jour où sa volonté sera acceptée sur la terre. Est-ce que nous le désirons ? Si oui, nous sommes en bonne santé. Si oui, mais pas tout de suite, parce que nous avons des choses à revoir avec le Seigneur. Que ta volonté soit faite. Comment trouver la volonté de Dieu ? Que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais que ta volonté. Où est-ce qu'elle est la volonté de Dieu ? Eh bien, elle est dans sa parole, la parole qui nous a révélée dans la Bible. La volonté de Dieu est que les gens se repentent, qu'ils mettent leur confiance en Christ et qu'ils aient une vie transformée par lui. Voilà ce que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous qui nous le connaissons et pour les autres qui ne le connaissent pas. Et alors quand on n'est pas sûr si c'est sa volonté ou pas, par exemple avec qui se marier, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou quel travail vais-je faire, c'est des questions que se posent aussi les enfants, les ados, eh bien, on peut rajouter, Seigneur, accorde-nous cela seulement si c'est ta volonté. Seulement si c'est ta volonté. Et si cela va contribuer à ta gloire, pas à la mienne. Et si cela va me permettre de mieux te servir, si on n'est pas sûr que c'est dans la volonté de Dieu, puisque le Seigneur recherche sa gloire à travers nos vies. Alors chercher la volonté de Dieu, puisqu'elle est dans sa parole, c'est une bonne raison de lire sa parole tous les jours. Parce que c'est une prière qu'on peut faire tous les jours. Je vais y revenir. Lire quotidiennement sa parole pour mieux la connaître, et pour mieux connaître la volonté de Dieu. Aussi, nous pouvons citer la Bible. Quand nous ne savons pas trop comment prier, la Bible regorge de prières dans les psaumes, notamment. Eh bien, on peut s'aider de la Bible qui est là pour ça, pour nous aider à prier. Bien sûr, avec le Notre Père. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autre version, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là aussi, il y a une emphase. Après avoir mis les intérêts de Dieu, non pas les miens, à la bonne place dans notre cœur, c'est-à-dire à la première place, les intérêts de Dieu, eh bien, vient le temps d'exposer à Dieu nos propres besoins. Et là, eh bien, le premier qui est cité, c'est nos besoins physiques, notre besoin vital de manger. Quelqu'un qui ne mange pas finira par mourir. Ça, c'est le besoin de notre corps. Et Dieu fait attention aux besoins de notre corps. Ne croyons pas qu'il s'intéresse seulement à notre âme et pas à notre corps. D'où l'importance de soigner notre corps, sans le mettre, bien sûr, à une place irraisonnable, déraisonnable. Eh bien, demander notre pain à Dieu, c'est lui demander un travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Et regardez l'insistance, les mots « aujourd'hui » et « quotidien ». C'est donc une prière qui peut être faite tous les jours. On a tous les jours besoin de manger, n'est-ce pas ? Manger du pain, oui, mais aussi... On a déjà aussi là un besoin spirituel qu'on peut exprimer. Nous avons besoin du pain, qu'est cette parole, la parole de Dieu. Et nous en avons besoin tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est aussi notre parole. C'est aussi lui demander de nous nourrir spirituellement par sa parole. Besoin aussi vital que celui de manger de la nourriture physique. C'est vital. Et vous avez remarqué, c'est pas « donne-moi mon pain quotidien », « donne-nous ». Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Cette prière nous apprend aussi à regarder les besoins des autres. Il y a des pauvres dans ce monde et Jésus s'intéressait aux pauvres. Sa parole nous le dit de ne pas oublier les pauvres, d'avoir compassion pour eux. Et ça nous interpelle sur ce que nous pouvons faire pour eux. Bien sûr, avec, pour que la gloire revienne à Dieu. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a chanté ce matin notre besoin que Dieu nous pardonne. Et c'est notre premier besoin spirituel. Mon premier besoin spirituel et le vôtre, c'est d'être pardonné de nos péchés. D'être pardonné, pas seulement, et aussi de pardonner. De pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et là encore, c'est une prière que nous pourrons faire chaque jour, parce que chaque jour nous péchons, même involontairement, et j'espère que ce n'est pas volontaire. En tout cas, on a tous besoin de nous repentir. Et Dieu nous montre là où nous avons besoin de lui demander pardon. C'est chaque jour que nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et Dieu nous pardonnera. Pas parce que j'ai répété plusieurs fois la même prière, il nous pardonnera à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix, qui a porté nos péchés, pour nous donner son pardon. Pour nous racheter de nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, c'est seulement lorsque nous avons reçu son pardon que nous sommes alors capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut d'abord, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Il faut d'abord commencer par recevoir son pardon, le pardon en Jésus. Comment quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne pardonne pas à son prochain peut-il dire qu'il est pardonné par Dieu ? Ah oui, je suis pardonné. Mais il y a quelque chose là qui empêche de pardonner à l'autre. Comment peut-il être sûr qu'il est pardonné par Dieu ? Là, c'est une condition. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Une telle personne qui dit pardonne-nous nos offenses, il y a elle, mais il y a aussi l'autre. Et si elle a du mal à pardonner à l'autre, alors que Dieu lui a pardonné si elle s'est repentie. Nous ne sommes pas au-dessus. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pardonner. Chacun a reçu des offenses plus ou moins graves. Et pour pouvoir pardonner, il faut d'abord recevoir le pardon de nos péchés. Et puis demander à Dieu qu'il pardonne à l'offenseur, comme Jésus a fait finalement. Eh bien, ça pourrait bien non seulement le changer, lui, l'offenseur, mais aussi nous changer, nous, changer notre regard par rapport à l'offenseur, de manière à ce que la relation soit rétablie. Alors peut-être que vous vous dites, mais moi je ne suis pas un hypocrite, le cœur n'y est pas, après ce qu'il ou elle m'a fait, je n'ai pas envie de lui pardonner. Ce n'est pas de l'hypocrisie là, il s'agit de dire ce que Jésus nous demande de dire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De dire dans notre prière, Seigneur, je pardonne, même si le cœur n'y est pas, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est faire ce que Dieu demande. Et ne nous inquiétons pas, si nous commençons par ça, si nous disons à Dieu que nous avons pardonné à la personne, le cœur viendra, l'attitude de cœur viendra après. Nous serons mieux disposés à l'égard de cette personne, parce que nous avons fait ce que Dieu demande. La disposition du cœur suivra, la guérison suivra. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Certaines versions disent, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors soyons clairs que Dieu ne tente lui-même personne. Selon Jacques, épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, Dieu ne tente lui-même personne. C'est pour ça que cette version ne nous laisse pas entrer en tentation. Elle est plus juste, je crois. Et aussi, la Bible dit en 1 Corinthiens 10, 13, que oui, Dieu permet l'épreuve, mais qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Même s'il permet l'épreuve. Et là encore, autant c'est chaque jour que nous avons besoin de demander pardon, c'est chaque jour que nous avons besoin de manger, c'est chaque jour aussi que nous avons besoin d'être délivrés du mal. Chaque jour. Nous vivons dans un monde déchu où les tentations sont nombreuses. C'est chaque jour. Et la prière se termine magnifiquement, comme elle a commencé. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors on a exprimé nos besoins à Dieu, mais on ne s'arrête pas là. On se recentre sur Dieu, comme au début. On termine un peu, oui, comme on a commencé. Comment ? En lui rendant gloire. En lui rendant gloire et en affirmant Quoi ? En affirmant son règne. On a commencé par demander que ton règne vienne et on termine en disant car c'est à toi qu'appartienne le règne. Et Jésus veut régner. Où veut-il régner ? Il veut régner sur terre, mais déjà il veut régner dans ton cœur et dans le mien. Et il en est digne parce que, à cause de son œuvre sur la croix. Cette prière, elle termine donc par, comme elle a commencé, la boucle est bouclée. Nous pouvons chaque jour rendre grâce et gloire à Dieu. Pourquoi nous pouvons lui rendre chaque jour grâce et gloire à Dieu ? Parce que nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à cette prière. Cette prière que son Fils lui-même nous a apprise, nous pouvons être sûrs qu'il y répondra. Cette prière faite au nom de Jésus. Cette prière qu'il nous demande, voici donc comment vous devez prier. Il nous demande lui-même de la formuler. Alors raison de lui rendre grâce. Sommes-nous convaincus des effets de cette prière déjà sur nous-mêmes, puis sur mon prochain, et puis sur Dieu lui-même? Si nous sommes convaincus, je crois que nous prierons davantage. Nous aurons davantage envie de prier. Alors, nous avons vu l'aumône, nous avons vu la prière, et la troisième pratique dont Jésus parle, c'est le jeûne, verset 16. Le jeûne. Le jeûne, c'est se priver de notre pain quotidien pour finalement se nourrir de Dieu. C'est une façon de s'humilier. C'est reconnaître notre dépendance, non pas du pain, mais de celui qui nous donne le pain, de Dieu. Jésus n'en a pas fait une loi. Le jeûne. Mais il le considère surtout comme un acte personnel, un acte volontaire et un acte secret. Cette pratique, il la recommande avec la prière pour recevoir la puissance divine. Lui-même, Jésus, il a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère dans la puissance du Saint-Esprit. L'aumône, la prière et le jeûne que beaucoup pratiquent, chrétiens ou pas. Alors soyons clairs. Ce n'est pas l'aumône, ni la prière, ni le jeûne qui nous enlève nos péchés, mais seulement le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix. On n'a aucun mérite. Et ces prières ne doivent pas servir de monnaie d'échange avec Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça représenterait quelques centimes. La prière, l'aumône et le jeûne, ça représenterait quelques centimes face à ce que Dieu nous a déjà donné. Par grâce, ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. On peut lui apporter que ce qu'il nous a déjà donné. Romains 11, verset 35 nous dit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Tout vient de lui. C'est parce que Dieu nous a donné le premier qu'à notre tour nous pouvons donner. Donner quoi ? Donner notre pardon. Donner aux pauvres ou à une mission. Donner non seulement de l'argent, mais de notre temps. Pas juste pour soulager nos consciences, mais dans une attitude d'amour et de reconnaissance. Et aussi pour témoigner. Puisque cette prière, elle vise la gloire de Dieu, eh bien, ces pratiques doivent témoigner de qui est Jésus. Alors lorsque nous donnons, je me souviens, j'avais visité un ami missionnaire au Sénégal et vous savez, il y a beaucoup de mendiants à tous les coins de rue. Et je me disais, mais on ne peut pas donner à tout le monde, c'est pas possible. C'est beaucoup de pauvres. Et j'ai vu mon ami missionnaire comment il donnait parfois, mais à chaque fois qu'il donnait, il accompagnait son don par cette parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il rendait gloire à Dieu pour le faire connaître. Donc, c'est pratique, le jeûne, l'aumône, la prière et le jeûne, doivent aussi servir de témoignage pour faire connaître le Seigneur Jésus. Et pour nous encourager, eh bien, il y aura des récompenses à l'aumône, la prière et au jeûne. Je précise, fait au nom de Jésus. Fait au nom de Jésus. Dieu a promis, verset 3 fois, Dieu verset 3, verset 16 et verset 18, il a promis, Dieu te le rendra. C'est donc un cercle vertueux dans lequel Dieu veut nous amener. Et ça commence par quoi ? Ça commence par la conversion. Par la conversion. C'est-à-dire recevoir ce que le Fils que Dieu nous a donné, le Fils unique de Dieu, le recevoir dans la repentance et dans la foi. On commence par le recevoir, ce que Dieu nous a donné. Puis lorsqu'on l'a reçu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on donne. On est capable de donner. Et une fois qu'on a donné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande. On demande à Dieu. Et une fois qu'on demande à Dieu, qu'est-ce qu'on... Eh bien, on reçoit. On donne, on reçoit. On donne, on demande, puis on reçoit. On donne, et on redemande, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. C'est la vie chrétienne, notre vie. Et quelles sont donc les récompenses que Dieu nous promet déjà ici sur terre? Dans ce même serment sur la montagne, Jésus a dit, Matthieu 5, 16, il a dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici? Est-ce qu'il se contredit quand il dit de ne pas montrer aux hommes nos bonnes œuvres? Et là, au verset 16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. La question, alors, vu, être vu ou ne pas être vu, telle est la question. La réponse au verset 3. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Quand on fait l'aumône, dans ce qui se fait dans la rue, il y a des passants, de toute façon, quand on fait l'aumône, ceux qui donnent, que ce soit du temps, de l'argent, de toute façon, on sera vu des hommes de toute manière. Sauf que les hommes ne voient pas notre cœur, seul Dieu le voit. Et ceux qui donnent par amour pour Dieu, pour sa gloire, eh bien, d'après le verset Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ceux qui donnent, ils vont briller. Et oui, ils vont briller. De quoi? Pas de leur propre lumière, ils vont briller de la lumière de Christ. Sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Alors que chez les autres, qui donnent pour être vus des hommes, ils seront vus, oui, mais comme ils sont vraiment, c'est-à-dire des hypocrites. Pour la prière aussi. Pas seulement pour le don, mais pour la prière. Là aussi, quand on passe du temps seul avec Dieu, ça va finir par se voir. Et on ne s'en rend même pas compte. En témoigne Moïse, dont le visage rayonnait quand il parlait seul à seul avec Dieu, sur le mont Sinaï. Je vous relis Exode 34, fin du verset 29. Et il ne savait pas, Moïse, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voilà sa récompense. Et voilà notre récompense. De refléter déjà ici-bas, sur terre, la lumière de Christ pour que les gens viennent à lui. En attendant les autres récompenses qui nous ont, que Dieu nous réserve au ciel. Amen. Je vais prier. Ô Seigneur, merci de nous avoir laissé, Seigneur, ces instructions si riches pour notre vie, ces instructions pour notre vie de prière, que tu veux que nous ayons, c'est une vie de prière. Donne-nous une vie de prière qui soit conséquente, qui soit riche, qui nous motive à prier chaque jour davantage, Seigneur, parce que tu réponds à notre prière, Seigneur, celle que tu nous as enseignée et celles qui sont faites en ton nom, Seigneur. Parce que tu as enlevé, Seigneur, la séparation qu'avait causé notre péché, la séparation qui nous avait séparés de ton Père. Seigneur, vraiment, donne-nous cette vie de prière, que nous y prenions plaisir, aussi bien de notre vie de prière personnelle avec toi. Aide-nous à la soigner, c'est toi seul qui la connais. Et aussi, Seigneur, la prière communautaire en Église, Seigneur, de prier les uns pour les autres. Seigneur, que tu sois toujours honoré, glorifié, Seigneur, dans nos prières, que tu sois toujours à la première place, et le reste viendra, Seigneur, tu connais nos besoins. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà montré ton amour et par ton Fils Jésus qui s'est offert pour nos péchés. Donne-nous, Seigneur, cette bonne attitude, donne-nous une piété qui vient de toi. Et aussi, Seigneur, qui témoignera de toi devant les hommes, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Pour que toute la gloire te soit rendue, pour que les hommes, les femmes qui ne te connaissent pas viennent à toi. Et les enfants aussi. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. En Jésus, Amen.